Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 29, dans l'actualité, nous discuterons des dernières nouvelles sur l'inflation. Ensuite, comme sujet principal, nous discuterons des stratégies de gestion de portefeuille de fin d'année afin d'optimiser votre facture fiscale. Bonne écoute! Salut James, ça va bien aujourd'hui?
Oui, bonjour François, ça va très bien.
Excellent. Donc, on a deux sujets intéressants à couvrir aujourd'hui, puis je vais te laisser commencer. Tu as des sur les dernières nouvelles sur l'inflation.
Mais en fait, des nouvelles sur l'inflation, on ne peut pas les éviter, c'est partout. On le voit à l'épicerie, on le voit dans les manchettes de nouvelles. Tout récemment, aux États-Unis, on a publié le taux de 6,22% en inflation. Wow. Et c'est énorme. En fait, au mois de mai, on annonçait 5,4, je crois. Fait que là, tout le monde est un peu préoccupé pour vraiment savoir est-ce que ça va être permanent ou est-ce que c'est transitoire. Le 6,22, en fait, c'est le plus haut niveau depuis le mois de novembre 2000. Il s'agit du plus haut niveau d'inflation depuis novembre 1990, donc il y a 31 ans.
Wow.
Imaginez, c'est loin. Et l'inflation, on le sait tous, c'est un très grand danger pour les investisseurs, le pouvoir d'achat qui se perd. Donc, c'est un point très important pour l'économie, pour tous les Canadiens, tous les citoyens qui voient leurs factures augmenter. Fait qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Puis les banques centrales mondiales, vraiment, ils regardent ça de très, très près. Par contre, il faut revenir à la base. Les points de comparaison, c'est une année de pandémie où on a eu des chocs économiques extraordinaires. Donc, les points de référence, c'est pas l'idéal vraiment pour faire des projections plus long terme. Fait que revenons à la perspective historique. Lorsque l'inflation était de 6,3% en novembre 1990, le taux d'intérêt des obligations du Trésor américain à 10 ans d'échéance était de 8,4%. Donc, on avait un rendement réel quand même de 2,1%.
Mm-hmm.
Fait qu'imaginez, maintenant l'inflation est à 6,2%, mais le taux d'intérêt des obligations du Trésor à 10 ans est maintenant d'environ 1,6%, toujours aux États-Unis. Fait qu'imaginez, on a un rendement négatif. Pensez-y. Moins 4,6%. C'est vraiment le moment idéal pour emprunter puis par rapport à être un épargnant qui veut se faire donner un taux d'intérêt. Ça n'a aucun sens de dire oui, ça, c'est la réalité. Mais peut-être que le marché obligataire, il y a des billions, on dit en anglais « trillions », investis dans le marché obligataire, puis peut-être que le marché obligataire nous dit quelque chose. Peut-être que pour eux, ce qu'ils voient, c'est un risque encore plus de déflation ou vraiment que cette inflation va être transitoire. Fait que clairement, les manchettes puis le marché obligataire disent deux choses différentes. Donc, on le sait, la théorie économique nous dit que c'est des expectatives d'inflation qui sont importantes. Puis, c'est sûr que sur le plan psychologique, tout le monde parle de ça. Fait que ça se peut que l'inflation, oui, serait transitoire, mais serait plus forte pendant plus longtemps que prévu, peut-être 2-3 ans. Encore une fois, revenons aux éléments essentiels, puis j'ai 3 points à partager avec nos auditeurs. Numéro 1, personne ne peut prévoir l'inflation. C'est très, très difficile. C'est encore plus difficile que prévoir la direction des marchés financiers, selon certains spécialistes. Donc, c'est simplement un autre exemple de market timing, de penser qu'on est capable de prévoir l'inflation. Il faut prévoir quand vendre, quand acheter. Fait que c'est deux décisions. Deuxième point que je soulève au niveau des éléments essentiels, c'est que les prix des actifs dans les marchés des capitaux financiers, ça reflète déjà les nouvelles d'inflation. Fait que ce qui n'est pas reflété dans les prix, c'est ce qu'on ne prévoira pas que cette inflation perdurerait plus longtemps que prévu. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Donc, si on a peur de ce qu'on entend aujourd'hui, ben c'est déjà reflété dans les prix. Mm-hmm. Troisièmement, les portefeuilles bien conçus offriront une protection contre l'inflation. Les actions restent l'une des meilleures couvertures contre l'inflation à long terme. Bon. Oui, l'évidence au niveau historique, mais là, on va se retourner vers nos amis Dimensional qui font de l'excellent travail qui est de rigueur académique. Et ils ont publié un papier récemment qu'on va partager avec nos auditeurs. Il est en anglais, par contre. Mais ils disent, et je vais citer, ils font quatre points. Le premier, les investisseurs peuvent se demander si les rendements boursiers vont souffrir si l'inflation continue d'augmenter. Mais selon eux, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les actions. Et il faut croire que les compagnies ont le pouvoir d'augmenter leurs prix puis de faire payer leurs clients. Et par conséquent, les bénéfices vont continuer d'augmenter en dépit de l'inflation. Le deuxième point que Dimensional apporte, c'est qu'un examen des performances des actions au cours des trois dernières décennies ne montre aucun lien fiable entre les périodes d'inflation élevées ou faibles et les rendements des actions américaines. Troisièmement, ils disent, depuis 1991, les rendements sur un an des actions ont beaucoup fluctué. Pourtant, les rendements les plus faibles peuvent se produire lorsque l'inflation est faible. Et en fait, 23 des 30 dernières années ont vu des rendements positifs, même après ajustement pour l'impact de l'inflation. Ce fut également le cas au cours des 6 premiers mois de cette année, 2021.
Oui, effectivement, on a eu des très bons rendements depuis le début de l'année. Là.
Tout à fait. Et finalement, le quatrième point que Dimensional apporte sur la période représentée sur le graphique, mais encore une fois, ça va être dans le lien avec le balado, le Standard & Poor's 500, l'indice des 500 grandes compagnies américaines, a affiché un rendement annualisé de 8,5% après ajustement pour l'inflation, donc depuis 30 ans. Si on regarde un peu plus loin en termes de période, jusqu'en 1926, le rendement est de 7,3. Fait qu'on voit que les actions ont très bien performé dans les 30 dernières années, en dépit qu'il y a eu des périodes où l'inflation était plus forte. À l'appui de ce que dit Dimensional, notre ami Jason Zweig, qui est chroniqueur dans le Wall Street Journal, a écrit lui aussi sur le sujet récemment, puis je trouve que ça mérite de lire et de le citer. Encore une fois, c'est une traduction de libre de notre part. Avant de remanier votre portefeuille, vous devez cependant garder ces vérités de base à l'esprit. La peur est une bonne philosophie d'investissement uniquement pour les personnes qui la vendent. Plus Wall Street convient qu'une prévision est inévitable, plus l'avenir est susceptible de la répudier. Et vous êtes probablement déjà mieux protégé contre l'inflation ou contre une baisse du pouvoir d'achat que vous ne pensez l'être. Donc, pour moi, je crois que Dimensional et Jason Zweig sont très cohérents. Si vous disposez d'un portefeuille bien conçu et largement diversifié, vous êtes déjà protégé. Cela correspond à ce que l'on pense, nous, et ce que vous, les investisseurs, devrez faire avec vos portefeuilles. Vous tenir à votre plan d'investissement à long terme puis ne pas vous laisser entraîner par le bruit dans les manchettes actuelles.
Ben, c'est très bien ça, James. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, sans grande surprise pour nos auditeurs, j'imagine. Essayer de prédire l'inflation est comme n'importe quelle autre prédiction. C'est du market timing, puis on sait que ça ne fonctionne pas. Puis l'histoire nous a démontré qu'avec un portefeuille largement diversifié, vous devriez très bien vous en sortir. James, tu as cité des études de Dimensional, mais je veux juste rapporter quelques données ici. Des études de Dimensional ont démontré que dans la période d'inflation supérieure à la médiane, période de 1927 à 2020, Les rendements des marchés des actions aux États-Unis étaient 4,9% supérieurs à l'inflation. Les rendements des grandes capitalisations de croissance aux États-Unis, le rendement au-dessus de l'inflation était de 4,1%. Et tenez-vous bien, pour les petites compagnies de type valeur, le rendement au-dessus de l'inflation pour, encore une fois, les périodes d'inflation qui étaient supérieures à la médiane était de 12% au-dessus de l'inflation. J'ai fait une petite étude moi-même. Là, j'ai regardé les périodes d'inflation ici au Canada. Quand l'inflation était au-dessus de 4%, c'est arrivé 21 fois depuis 1961, le rendement du TSX a été de 4,5% supérieur ces années-là à l'inflation. Donc, des rendements réels de 4,5%. Ça, c'est un rendement au-dessus de l'inflation. Donc, ça,
c'était encore une fois, François, c'est de l'évidence que les actions performent bien dans des périodes inflationnistes. Ça, c'est sûr que s'il y a un choc extrême que personne ne voit venir, le marché peut corriger, mais fondamentalement, pour la plupart des investisseurs dont le portefeuille est bien structuré, on maintient le cap.
Excellent. Merci, James. Donc, notre prochain sujet, on va couvrir les stratégies de gestion de portefeuille de fin d'année afin d'optimiser votre facture fiscale. Il reste quelques semaines avant la fin de l'année et avant que votre préparation pour les fêtes prenne toute votre attention. Donc, on a pensé qu'il serait utile qu'on passe en revue certaines des stratégies de gestion de portefeuille et de planification fiscale de fin d'année. Nous allons aborder le sujet en deux épisodes. Aujourd'hui, je vais commencer par la première partie, les stratégies de gestion de portefeuille de fin d'année. La deuxième partie, la planification fiscale de fin d'année, sera couverte dans notre prochain épisode. Il faut garder en tête là, que les commentaires que je vais faire seront de nature générale. Pour être plus précis, on aurait besoin d'une compréhension un peu plus pointue de la situation fiscale et financière d'un investisseur. Donc, il y a quatre stratégies que je veux couvrir avec vous aujourd'hui. La première, c'est évaluer votre allocation d'actifs actuels et rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire. Je le répète souvent, il est toujours important de s'assurer que notre allocation d'actifs actuels est en ligne avec notre allocation d'actifs cible à long terme. Puis c'est particulièrement vrai dans une année comme celle que nous vivons lorsque les indices d'actions canadiennes, américaines et internationales de pays développés ont tous enregistré des rendements positifs à deux chiffres. Et lorsque surtout les indices de revenus fixes ici au Canada ont jusqu'à présent généré des rendements négatifs. En raison des excellents rendements du côté des actions, si vous aviez une allocation équilibrée classique, là, c'est-à-dire un 40% en titres à revenus fixes et 60% en actions en début d'année, votre portefeuille est probablement surpondéré de 5-6% en actions et sous-pondéré en titres à revenus fixes du même pourcentage. Si c'est le cas, bien sûr, c'est le temps de rééquilibrer votre portefeuille, ce qui veut dire réduire les positions qui sont appréciées, donc vos actions, et racheter les positions qui ont eu des rendements inférieurs. Puis ici, cette année, c'est les revenus fixes. La principale raison pour le rééquilibrage, c'est réduire le risque puis réduire la volatilité du portefeuille. Puis étant donné que les actions surpassent normalement les rendements des obligations à long terme, si vous ne rééquilibrez pas votre portefeuille, vous vous retrouvez toujours avec un pourcentage plus élevé de votre portefeuille en actions, donc avec un portefeuille qui va être plus risqué et plus volatile. Il est toujours préférable de rééquilibrer votre portefeuille régulièrement et prendre des profits au lieu d'attendre qu'il y ait une baisse de marché puis que ce soit lui qui rééquilibre à la baisse votre portefeuille ou qui fasse le rééquilibrage à votre place. On devrait toujours aussi commencer à rééquilibrer notre portefeuille dans les comptes enregistrés, car les ventes n'auront aucune conséquence fiscale. Si vous rééquilibrez et générez des gains dans vos comptes taxables, vous aurez probablement des impôts à payer. Puis pour les investisseurs qui doivent effectuer leur retrait annuel du FER avant la fin de l'année, c'est une bonne idée de profiter de ce rééquilibrage-là pour générer les liquidités nécessaires pour faire votre retrait. Ma deuxième stratégie, c'est différer la réalisation de gains en capital. Je viens de parler de rééquilibrage de portefeuille, mais avant d'aller de l'avant et de rééquilibrer votre portefeuille, c'est toujours une bonne idée de consulter votre rapport de gains et pertes en capital réalisé depuis le début de l'année. Avec votre rapport de gains et pertes réalisé depuis le début de l'année en main, vous serez en mesure d'évaluer si vous devriez rééquilibrer votre portefeuille maintenant ou attendre la nouvelle année. Si vous avez généré beaucoup de gains en capital au cours de l'année, déclencher davantage de gains maintenant pourrait faire augmenter votre taux marginal d'imposition. Donc, il serait peut-être plus avantageux de reporter le rééquilibrage du portefeuille à la nouvelle année afin de réduire votre facture d'impôt. Il y a un risque avec la stratégie, c'est que d'ici la nouvelle année, les marchés boursiers pourraient chuter et vous aurez manqué une opportunité de réduire le risque de votre portefeuille et de prendre des profits. Le troisième point que je veux soulever, c'est qu'il faut être à l'affût des distributions de gains en capital de fin d'année sur les FNB et les fonds communs de placement. À chaque année, en décembre, les détenteurs de FNB puis de fonds communs de placement sont sujets à recevoir des distributions de gains en capital. Ces distributions sont le résultat des ventes de titres au courant de l'année par les gestionnaires des fonds. Et si vous détenez votre FNB ou votre fonds commun de placement dans un compte taxable, vous serez assujetti à des impôts sur ces distributions. Le truc avec la distribution de gains en capital de fin d'année, c'est que contrairement aux distributions mensuelles ou trimestrielles qui sont versées en espèces, les gains en capital distribués en décembre sont versés sous forme de distributions réinvesties. Donc, aucune somme d'argent n'est distribuée. Pour l'investisseur qui détient la position dans un compte enregistré, c'est pas vraiment un problème. Mais pour les porteurs de parts dans des comptes non enregistrés, il y a des impôts qui devront être payés, même si vous n'avez pas reçu d'argent. Les FNB puis les fonds communs de placement à gestion passive distribuent généralement pas de gains en capital, mais toujours prudent de consulter le site web de vos fournisseurs. Il y a des estimations qui sont fournies de façon annuelle en novembre de chaque année sur les sites des différents fournisseurs. Comme prochain point, si un de vos fonds distribue des gains en capital importants, il peut être avantageux de le vendre pour éviter la distribution. Par contre, avant de vendre votre position, assurez-vous de ne pas générer un gain en capital encore plus important sur votre transaction. Puis dernièrement ou finalement, un point qui est important, si vous êtes en train de faire des achats importants dans votre portefeuille, vous êtes en train de construire un portefeuille puis vous voulez investir des sommes importantes, il serait peut-être important d'attendre la date ex-dividende avant d'acheter un produit qui va effectuer une distribution de gain en capital afin de, bien entendu, de l'éviter. Mon dernier point, c'est la récolte des pertes fiscales. Avec les marchés qui atteignent régulièrement des nouveaux sommets cette année, il n'y a peut-être pas beaucoup de pertes à cristalliser dans votre portefeuille, mais ça vaut toujours la peine de regarder au cas où. Bien entendu, lorsque vous vendez un placement à perte dans un compte imposable ou taxable, vous pouvez utiliser cette perte pour compenser les gains en capital que vous avez réalisés au cours de l'année. Les pertes que vous n'avez pas utilisées dans l'année en cours peuvent être reportées 3 ans en arrière ou reportées en avant indéfiniment. Pour pouvoir utiliser une perte pour l'année en cours, la transaction de vente doit venir à règlement avant la fin de l'année. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il n'y a peut-être pas beaucoup de pertes dans la partie actions de votre portefeuille, mais avec les marchés des titres à revenus fixes qui perdent du terrain ici au Canada, vous avez peut-être accumulé des pertes dans votre allocation de titres à revenus fixes. Par exemple, en date du 12 novembre, le FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index, avec un symbole XBB, était en baisse de 5,1% pour l'année. Donc, si vous avez cette position-là dans votre portefeuille, il est peut-être judicieux de la vendre puis de cristalliser la perte. Il est important de ne pas oublier que pour éviter que la perte soit considérée comme superficielle, que vous ou une personne affiliée ne rachetiez pas une position identique dans les 30 jours avant ou après la vente. Puis si vous prenez une perte sur le XBB, un titre de remplacement pourrait être l'indice iShares Core Canadian Short-Term Bond, symbole XSB. Ça peut être un remplacement, puis vous pourriez revenir à votre position originale dans un peu plus d'un mois, là. C'était mes commentaires, James.
Bien, François, tu as fait un excellent travail et tu as couvert beaucoup, beaucoup de terrain. J'aimerais apporter quelques commentaires additionnels. Premièrement, je rappelle à tous nos auditeurs que tes conseils sont généraux de nature et chaque investisseur, sa situation fiscale et financière est différente et il faut tenir compte des faits de chacun avant de donner des conseils précis. Fait que nous, comme professionnels, on doit faire cette mention-là. Ensuite de ça, j'ajouterais que à ce jour, les portefeuilles affichent des rendements qui sont à peu près 2,5 fois le rendement espéré selon le plus récent rapport publié par PWL sur les hypothèses de planification financière sur les rendements espérés. Donc, on va offrir un lien sur le balado à ce rapport-là sur notre site web chez PWL. Mais si c'est 2,5 fois, il faut se poser la question, est-ce que c'est le temps de rebalancer? Est-ce qu'on doit réévaluer notre allocation d'actifs long terme? Alors, c'est sûr que, exemple, si on est 60 ou 70 % en actions, on est déjà rendu à 65 ou 75 %. On vend, on cristallise des gains en capitaux dans les comptes taxables. Les gens ne veulent pas payer de l'impôt. Ah, les taux d'intérêt sont très bas. Je ne veux pas faire du remblai dans mon portefeuille obligataire. Fait que c'est tout ce genre de questionnement que les gens vont passer au travers s'ils font le processus rigoureusement. Mais encore une fois, si on augmente notre allocation long terme pour ne pas réaliser des gains, il faut accepter le risque qui vient avec. Dans l'autre sens, si on ne peut pas prendre plus de risques, on n'a pas la capacité ou la tolérance, il faut vraiment respecter son allocation d'actifs long terme et il faut rebalancer et revenir au point. Fait que, c'est-tu le moment de le faire maintenant? C'est-tu d'attendre le début de l'année fiscale pour remettre à plus tard les gains réalisés? Mais encore une fois, c'est quelque chose auquel nos auditeurs vont devoir penser.
Excellent. Très bien dit, James. Eh bien, c'est tout pour ce 29e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode dans 2 semaines, alors que nous discuterons entre autres de quelques-uns des meilleurs conseils de planification fiscale de fin d'année. Avant de terminer, j'aimerais remercier notre réalisatrice Lise Laplanche pour sa précieuse collaboration. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À bientôt!